Bienvenue dans la French. Encore merci pour tous vos commentaires, encore merci pour tout votre support. On est vraiment très content de voir que la communauté aime beaucoup ce qu'on fait. Et on revient avec un format que vous avez beaucoup apprécié. C'est le format pionnier et pionnière de la tech. Cette fois-ci, on a un invité ou une invitée secrète. Voilà, on va essayer de deviner qui c'est ensemble. Et on va le faire, bien sûr, avec Steve et JB.
Bonjour, bonjour.
Salut tout le monde.
On va parler d'IA, de LLM, de grands modèles de langage. On va parler de SLM, de petits modèles de langage. Donc voilà, c'est un épisode vraiment où on va découvrir cet aspect de la recherche et où est-ce qu'on en est au niveau de l'état de l'art sur ces sujets. On va parler de données synthétiques, enfin vraiment des choses qui font vraiment le cœur de l'IA mondiale aujourd'hui avec l'une des meilleures du monde. Ah, j'ai dit déjà son genre. Oulala, faut faire attention.
Peut-être c'est un indice, peut-être c'est pour peut-être un indice, brouiller les pistes.
Peut-être pour brouiller les pistes, c'est ça. C'est parti. On va le refaire à la Julien Lepers, hein, vous vous rappelez ?
Moi, j'avais bien aimé.
Allez, on repart là-dessus.
Mais est-ce que tu penses que tout le monde sait qui est Julien Lepers ?
Ouais.
Non, mais on m'a dit en commentaire...
Je pense qu'il devrait aller voir.
En commentaire, quelqu'un a dit « Pourquoi il n'y a jamais de ballon à question pour un champion ?» Parce que Julien Lepers.
Super.
En commentaire, on a des bons. Allez, je rappelle le jeu en 4 points, 3 points, 2 points ou 1 point, selon si vous trouvez plus ou moins rapidement qui est notre invité. Allez, donc pour 4 points, indice... chez vous. Je suis une chercheuse française et entrepreneuse dans l'IA générative et je figure de l'excellence académique française. Je suis issue de l'École normale supérieure Ulm, hein, pas Cachan, pas Lyon, Ulm.
Ça n'existe plus Cachan. Hein.
Ça s'appelle plus Cachan ?
Ça s'appelle Orsay.
L'ENS Ulm. Et là où d'autres se contentent de scraper le web, moi j'applique la rigueur des humanités numériques à l'ingénierie des données. Je suis la preuve que la recherche fondamentale est le premier maillon de l'IA générative. Donc là, on est vraiment dans le cœur. Et notamment, je suis co-autrice de deux papiers de recherche. Le premier, c'est sur la première famille de langage, de modèles de langage entraînés directement sur des données ouvertes, des open data. Donc ça, c'est un premier papier de recherche. Et le deuxième papier de recherche, je suis co-autrice d'un papier sur la plus grande collection de données éthiques pour l'entraînement des LLM, pour le pré-entraînement des LLM. Donc deux papiers de recherche publiés. 4 points. Ah, c'est dur, hein.
C'est toujours dur. Hein,
moi, je pense que 4 points, j'aurais pas. J'aurais peut-être le sujet général, mais je l'aurais pas. Si vous l'avez en 4 points, vous le mettez dans les commentaires si vous savez qui c'est. Allez, on part.
Je suis une contributrice majeure à la recherche en open science sur les pipelines de pré-entraînement. Je suis co-autrice de papiers techniques qui définissent les standards actuels de la curation de données tels que Common Corpus et des datasets spécialisés tels que Medical Commons, French Public Domain, Newspaper Dataset, etc. J'ai copiloté la création de datasets massifs audités et nettoyés, démontrant par A plus B dans les benchmarks techniques que la qualité des tokens prévaut sur la quantité brute, remettant en cause le dogme aveugle des scaling laws.
Là, c'est
3 points.
Ça c'est velu là. Là, ça commence à être. On rentre dans le cœur du sujet.
Moi, j'aurais quelques noms.
C'est une pionnière, voilà. C'est une pionnière. Donc voilà, faut y aller quoi. Allez, pour 2 points.
Alors, pour 2 points, on y va. Je suis lauréate avec mon équipe du concours des créations d'entreprises liées à la recherche en 2025, e-lab, et je suis spécialiste des données synthétiques permettant l'émergence des SLM, c'est-à-dire les Small Language Models, ultra spécialisés, qui battent les géants généralistes comme, alors ça c'est mon préféré, Baguette au tronc, fantastique, que j'ai promu récemment au CES de Las Vegas, et ça, avec succès. Et ça c'est pour 2 points. Moi, j'aurais eu. C'est vrai,
ouais, t'aurais eu baguette au tronc.
De toute façon, c'était. Voilà.
De toute façon, c'est à la French, hein, baguette au tronc.
Ouais, mais c'est quand même fantastique.
Bientôt, croissante au tronc.
Croissante.
Pinte au tronc.
Pinte ou chocolatine au tronc. Attention, on crée un schisme dans l'écosystème.
Allez, si vous ne l'avez pas, il nous reste un dernier point. Je suis la cofondatrice et la CEO de Playas, un laboratoire de recherche devenu start-up qui fournit aujourd'hui l'infrastructure cognitive et les jeux de données souverains pour entraîner les prochaines IA françaises, européennes et mondiales. Mon prénom est Anastasia. Mon nom commence par Sta est fini par Senko. Je suis Anastasia Stasenko. Bienvenue Anastasia.
Bienvenue.
Salut.
Merci.
Bah écoute, ouais, merci beaucoup d'être venue. On t'a cité plusieurs fois dans le podcast, dans les épisodes précédents, notamment qu'on parlait de DIA open source, vraiment open source, de jeux de données éthiques. Et donc on ne pouvait pas ne pas t'inviter parce que avec Playas. C'est en partie, une partie de votre mission principale, c'est de nettoyer un peu tout ça, quoi.
Oui, on est allé assez loin. Franchement, je pense qu'on peut le dire. Parce que, bon, bah, c'est quoi l'IA finalement open source? On peut parler des poids ouverts, donc des IA open weights. Donc, bon, bah, les développeurs, enfin, les labs mettent quelque part des modèles et vous pouvez utiliser des poids. Et du coup, soi-disant, c'est ouvert. Mais sauf qu'en fait, il y a un truc qui définit ce que c'est réellement un modèle d'IA et davantage, enfin, un modèle d'IA génératif, c'est bien le set d'entraînement. C'est le set de données, son corpus. Enfin, j'aime bien le mot corpus, en fait. Il est un peu plus, enfin, voilà, il me fait un peu plus penser à ce qu'il y a réellement dedans. Enfin, c'est tous ces textes, les nuances, ouais, etc. Et ben, en fait, c'est vrai que quand on a commencé en 2024, il n'y avait quasiment pas, en fait, d'IA réellement open source, à savoir, en fait, des modèles donc, qui étaient publiés avec à la fois leur code d'entraînement, mais aussi les datasets sur lesquels ils étaient entraînés. Donc là, c'est déjà un peu la première chose par rapport à laquelle on s'est révolté, on va dire. Bah non.
Il me semblait qu'il y avait, alors corrige-moi, hein, je me défère, hein, bien sûr. Il me semblait qu'il y avait Bloom, je crois, qui avait, alors en France.
Tu as tout à fait raison. Bloom, aussi GPT NeoX de l'ETRAI.
Ah,
c'était vraiment, ouais, des pionniers sur le, okay, sujet. Et en fait, bah là, peut-être, voilà, on peut même...
Mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Mais...
C'était très, très rare. Et c'était plutôt des projets de recherche. Donc, des, oui, projets quand même assez, assez académiques, même si, effectivement, l'ETR, bah, enfin, on aime beaucoup chez Pléias, Stella Biderman, qui est la, donc, qui est la fondatrice de l'ETR, continue d'œuvrer, voilà, dans l'espace ouvert sur tous ces sujets, évidemment. Mais en fait, il y a aussi ouvert et ouvert. Oui. Et Euleuther est un bon exemple, là où, en fait, l'ouverture, avec le fair use, tel que c'est le cas aux États-Unis, s'arrête un peu en Europe. En fait, lorsqu'on parle de la publication et de l'ouverture de datasets de données, cela veut dire qu'ils doivent rester ouverts. Donc, il y a une question quand même un tout petit peu de durabilité de cette ouverture, hein, d'accord? Parce,
d'accord,
que, bah, effectivement, si, et donc, c'est arrivé effectivement à l'auteur, lorsqu'ils ont publié leur dataset d'entraînement, en fait, ils ont été dépubliés, donc, assez rapidement, parce que il y avait des copyright owners, donc, qui avaient, donc, identifié qu'il y avait des livres entiers, donc, qui étaient sous droit, pour le coup, donc, et qui ont exigé de Hugging Face, donc, de dépublier ces sets de données.
D'accord.
Donc, en fait, on avait aussi un sujet, bah, ok, c'est cool de faire de l'open source, de publier des choses, mais en fait, il faut que ce soit durable. Parce que l'idée, en fait, c'est la reproductibilité. Et c'est le fait, donc, aussi, en downstream, de ne pas avoir de risques légaux, de risques de, effectivement, ah bah, maintenant, on doit réentraîner parce que il y a eu, dans le set initial, des données sous droit, etc. Donc,
mais pour être clair, c'est-à-dire, oui, c'est des données où les copyright owners avaient autorisé, on va dire, l'entraînement, mais n'autorisait pas la diffusion bah, du coup du dataset. Mais à la base, ils étaient OK ou c'était un peu flou, bah, on ne sait pas trop.
Écoute, avec Euleuther, c'était beaucoup plus simple. Ils se sont dit, bon, bah, on fait une bonne chose, on fait de l'open source, on a scrappé des bouquins, on va les publier. Et moi, franchement, je viens aussi plutôt de cette réalité, de cette tradition. Je ne suis pas la défenseuse du copyright. Je suis vraiment pour le partage, en fait, des connaissances.
Avec
et des
la savoirs. Culture libre, quoi.
Évidemment, évidemment. Bon, bah, enfin, en plus, en étant russe, Libgen, tout ça. Bon. j'ai beaucoup contribué aussi quand j'étais plutôt ado, hein. Enfin, voilà. En téléchargeant des bouquins.
Chouette.
Voilà. Donc, bien évidemment, c'est des bouquins en philo, introuvables. Voilà, bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un sujet de finalement un sujet économique, un sujet d'acceptabilité, et donc lorsqu'on essaye de faire avancer les choses dans la recherche face en plus à des labs qui ne publient rien, et en fait
et qui utilisent de fait plein de données complètement.
Mais c'est difficile de prouver, il faut aller au tribunal, tu vois. Donc bah, maintenant on va au tribunal et on a tout ça.
Il y avait eu un précédent, je crois, je sais plus quel, ils avaient jailbreaké le modèle. Et ils lui avaient demandé de générer une diffusion, je ne sais plus, mais ils avaient demandé de générer une image de Star Wars à tel time code, et ça avait généré l'image du
mais,
film.
Mais en fait, tu le regardes, hein, moi, au début de Copilot, notamment sur GitHub, en fait, tu lui demandais des fonctions, par exemple, de timestamp, où il n'y avait quasiment que VLC,
ouais,
et
ouais,
il te reproduisait.
Oui, mais VLC est open source. VLC, machin.
D'accord, mais là, c'est pas parce que c'est open source que tu as le droit, et c'est open source sur certains droits. Et ça, c'est assez important, et je ne sais pas si tout le monde se rend compte, c'est que, en fait, les droits d'auteur, c'est très compliqué. Dans la vidéo, c'est absolument absolument incroyable, parce qu'en fait, même le monteur, le cadreur, le mec qui enregistre ont des droits, mais même dans l'édition, par exemple, il y a des bouquins qui sont pas tombés dans le domaine public. Par exemple, il y a beaucoup de débats sur le livre d'Anne Frank, qui normalement devrait être dans le domaine public, mais comme il y a une édition avec quelques modifications de quelque chose qui était, etc. Et tu as le même sujet sur, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, tu vois, il y a des modifications...
Directors of Directors
Non, par le fils, par le fils, parce que normalement...
Sans parler d'ouvrage collectif...
Ah pardon, je croyais que tu parlais du film.
Non, on parle pas du film.
Dans la culture, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui ont vu le film et ceux qui ont lu le livre.
Mais en fait, il faut le comprendre, c'est que les droits d'auteur sont beaucoup plus compliqués et surtout sont beaucoup plus manuels qu'on ne croit. C'est-à-dire que tous ces trucs-là sont gérés dans les maisons d'édition, des maisons de publication, quasiment avec des fichiers Excel. Et souvent même, tu peux te tromper. C'est-à-dire que tu le fais même pas exprès. C'est que, oh bah non, j'ai utilisé un truc parce que tu utilises des milliards de tokens.
Dans le cas d'un entraînement, c'est foutu, quoi. Si ça a été contaminé, c'est mort.
Pour une raison très simple, pour une raison fondamentale, qui est que si, en fait, ta source de données, c'est uniquement le command crawl. Et c'est la raison pour laquelle, nous, en fait, on était vraiment les premiers, on reste quasiment les seuls, en fait, à ne pas utiliser les archives du web, le command crawl, comme la base en fait de notre set de données.
C'est quoi le command crawl, voilà.
Le command crawl, donc c'est effectivement, c'est les archives du web. Donc il y a une organisation donc qui s'occupe en fait de constituer les archives du web. D'ailleurs ils sont 5, hein, je crois. Donc en fait c'est vraiment ce même sur l'open source, il est très juste, hein. Enfin tout ce grand machin
qui,
de l'IA.
Tout cette énorme infrastructure qui tient sur cette petite personne.
Donc c'est 5 personnes qui font ce dataset de données
qui crawl, donc qui scrape, qui collecte des pages web, d'accord. Et donc en fait, dès qu'on commence à s'intéresser à comment ça fonctionne, on voit plusieurs limitations. Bon, déjà en réalité, il scrape pas des documents, il scrape pas des documents PDF qui sont plus lourds que 5 mégas. Donc imaginez déjà la chose. Il scrape des pages web et ils doivent respecter le robotexte, mais bon, voilà, parfois il n'y a pas de robotexte, parfois. Enfin bon, il y a deux choses.
Le robotexte, c'est juste pour contextualiser rapidement, c'est ce qui dit qu'un crawler, donc quelque chose qui parcourt Internet, ce qu'il a le droit ou pas le droit d'aller chercher sur un site.
Voilà, donc effectivement, il y a déjà beaucoup de sujets liés à cela.
C'est quoi la taille du common crawl?
Alors, la taille du command crawl, bah, ça doit être à minima plusieurs milliers de milliards de mots. Donc, c'est à peu près 3-4 milliards de mots, voire plus. Hein, donc, ce qui est disponible.
1000 milliards.
1000 milliards, pardon.
Teratoken,
Teratoken.
Voilà, exactement. Donc, mais en fait, une fois qu'on part de ces archives du web, et par exemple, ce que Bloom a fait. Moi, en fait, vraiment, ma révélation sur ce sujet s'est produite quand on a fait une étude, encore en 2022, de ce que c'était, en fait, le dataset de Bloom. Les gars qui ont bossé sur Bloom, c'est des super gars, hein. Ils avaient en plus une démarche très éthique. Mais en fait, quand on a commencé à regarder ce qu'il y avait, bah, il y avait surtout des cookies et du porno. Je suis désolée de le dire, sur la partie française en tout cas. Et bah, moi, je me suis dit, bah, c'est quand même dingue qu'avec des cookies et du porno et des mentions d'utilisation légale du site, on réussit à quand même créer des modèles qui savent généraliser, qui savent raisonner, qui savent faire des trucs. Là, je me suis dit, oula, les transformers sont quand même méga forts. Bref. Mais donc, il y avait un autre sujet, au-delà des cookies, donc sujet quel était, il y avait aussi sujet de donner ce droit. Parce que, comme tu disais, on ne peut pas filtrer tout ce qui est la reproduction par mec, même un mec qui se dit bah, « Ok, tiens, je vais juste mettre sur mon blog des gros extraits des articles du New York Times ». Vous vous souvenez là de ce gros scandale quand New York, enfin scandale, c'était en fait en lawsuit, ils sont allés au tribunal et démontraient que bah du coup GPT-4 à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était sur GPT-4, pouvait reproduire des pans entiers d'articles de New York Times qui étaient en fait même bloqués. Comment ça se fait? Bah parce que en fait ces articles sont tellement reproduits sur le web par des tiers, enfin qui mettent des bouts, etc. Et que du coup, comme la qualité est jugée par les classifiers qui sont utilisés pour upsampler en fait les trainings, c'est très
améliorer
très
la
importante,
qualité, voilà, ouais.
Bah du coup les modèles voient ça, voient ces bouts de texte plusieurs fois durant l'entraînement et peuvent les mémoriser jusqu'à quasiment mais, bah effectivement.
Donc en gros ce que tu dis c'est que il y a un débat entre est-ce qu'ils ont vraiment copié New York Times ou est-ce que c'est parce que tellement de gens l'ont copié qu'à la fin, ça ressort.
Mais ils ont fait les deux. Ils ont fait les deux. Et c'est pour ça que c'est pas possible. C'est pour ça que nous, on reste vraiment très sceptiques sur le fait que, sur cette volonté, et qui est beaucoup promue en Europe, hein, autour de la donnée souveraine, filtrer le crawl à l'infini pour s'assurer que c'est impossible.
Donc c'est quoi Toi, vous faites comment en fait du
coup, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc du coup, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut quand même.
Et qu'est-ce que vous faites de différent
Donc, qu'est-ce qu'on a fait de différent En fait, on a vraiment une approche basée sur la provenance, c'est-à-dire que on a discriminé les sources dès le début à partir desquelles on prenait en fait des documents. C'est-à-dire que par exemple, on a fait la collecte du domaine public exclusivement à partir des répertoires des bibliothèques nationales.
Donc ça veut dire que vous, par rapport aux autres qui vont exclure des contenus jugés problématiques, vous, c'est l'inverse, vous incluez des contenus que
exactement.
Vous avez qualifiés.
Tout à fait, exactement, okay. On inclut.
Donc c'est domaine public, Creative Commons, des choses
alors,
comme ça.
Alors Creative Commons, c'est plus compliqué que ça, parce que de nouveau, on ne prenait que Wikipédia,
donc
Wikipédia structurée, exactement. Et en fait, ensuite, donc sur le domaine public, c'est en fait des livres tombés dans le domaine public selon la Convention de Berne, et tu disais bien, il y a énormément de...
Donc Rabelais, ça va, mais tout ce qui est du début du XXe siècle, c'est un peu compliqué.
Ouvrage collectif, il y a plein de choses très complexes, mais pour le coup, on a été assez, on était un peu radicaux, donc vraiment, on n'a quasiment pas des choses post-1910-15, quoi, voilà. Et effectivement, on s'est basé surtout sur l'immense travail qui a été déjà mené par les bibliothèques nationales européennes, dont la BNF, etc., etc. Donc, et effectivement, on a utilisé leurs métadonnées.
Et comment tu fais pour accéder à ces métadonnées ? T'as dû discuter avec eux ou en fait ils le mettent déjà
ouvert ? Ils le mettaient. Ils le mettaient. D'ailleurs, ça c'est un autre truc. Enfin, quand on travaille dans l'open data, ce dont on va se rendre compte assez rapidement aujourd'hui, à l'âge de l'IA, c'est que en fait, l'ouverture, elle est un peu en train de se
Voilà. Il y a une disparition des datasets.
Le truc, c'est que, par exemple, prenons l'exemple de la BNF. Hein. Bon, si vous nous écoutez,
bonjour,
vous savez
déjà.
Bonjour,
de la Bibliothèque nationale de France,
c'est les clients.
Vous connaissez déjà notre opinion. Bref, donc, le truc, c'est qu'il y avait une API donc, disponible pour les chercheurs à partir de laquelle on pouvait effectivement récupérer, par exemple, les données de Gallica, d'accord, avec toute la métadonnée et surtout, en fait, des documents, des PDF. Donc, des documents OCRisés, d'accord ?
Bon. OCRisés,
okay. Donc effectivement,
alors,
c'est
OCR, juste comme ça pour ceux qui savent, OCR.
Optical Character Recognition,
c'est
donc
la reconnaissance du texte, quoi.
Voilà, à partir des images, donc, parce que vous imaginez, donc des livres anciens,
des
on les a numérisés.
De livres.
Effectivement. Bon. Le truc, c'est que quand tous ces détenteurs, en fait, de données qui sont ouvertes normalement, se rendent compte que, en fait, les gens viennent prendre cette donnée et faire des trucs sympathiques avec.
Pour la valoriser, du coup.
Et ils se disent, oula, du coup, pourquoi on ne commercialiserait pas tout cela, d'accord ? Et la BNF, à un moment donné, tout simplement, fermait son API. Et donc, il y a des chercheurs, et du coup, c'était des collègues en humanité numérique qui ne pouvaient plus accéder à des corpus qui étaient, en fait, leur sujet de recherche. Donc, c'était très, quand même, problématique. La même chose était arrivée avec Internet Archive, d'accord ? Et là, c'est pour le coup vraiment une tragédie parce que, du coup, aujourd'hui, cette donnée qui était auparavant et qui fait partie des biens communs, du bien public, c'est dans le domaine public. Aujourd'hui, elle n'est pas vraiment accessible, donc, sauf si donc, on passe par l'API payante d'Internet Archive. Bref.
Mais est-ce que ça ne pose pas la question ? Parce que j'en remets à ce que tu disais, par exemple, sur le New York Times, en fait, que le. Ils le voyaient partout. Et donc, en fait, ce n'est pas tellement la reproduction de l'œuvre, c'était plutôt la concentration de la captation de valeur, en fait. C'est-à-dire que, du coup, toute la valeur était c'était diffus. Donc, on laissait, peut-être qu'il y avait un laisser-faire. Et peut-être, est-ce que la question... je me demande, en tout cas, si la question n'est pas de dire, en fait, le problème, ce n'est pas tant que ce soit libre ou pas libre, machin. C'est qu'en fait, il y a une valeur qui est captée de manière extrêmement concentrée. Voire abusive, on a eu, dans un épisode on parlait des crawlers IA qui font n'importe quoi, qui foutent des sites complètement au tapis et tout.
Bien sûr.
Et donc du coup voilà, ouais, tu penses que c'est un sujet plutôt lié à ça ou stricto sensu du fait que en fait on n'avait pas pensé qu'il y avait une manne. Après tout, maintenant qu'il y en a une, on va la valoriser nous aussi.
Non, bien sûr que c'est. Enfin, je veux pas. Enfin, comprenez-moi bien. Je veux pas critiquer. Enfin, je veux pas dire que les personnes donc responsables de ces projets open, ils se sont réveillés avec une immense envie de gagner plein d'argent et se sont dit tiens, on va tout fermer. Non, bien sûr qu'il y a une vraie injustice en fait qui se produit.
Parce que ces projets doivent vivre.
Mais exactement. Mais c'est le même sujet maintenant avec les projets Wikimedia. On est leur partenaire stratégique. Voilà, on discute beaucoup avec eux. C'est pas évident comment faire. Je pense qu'en revanche, la fermeture, surtout des projets qui sont subventionnés par l'argent du contribuable, ce n'est pas une bonne chose. dans tous les cas, même si l'injustice, il faut la constater, et il faut enfin œuvrer davantage à en fait soutenir des projets qui proposent des alternatives. Ça, je suis d'accord. Mais si on revient un tout petit peu juste sur la question de la provenance, il y a à part le domaine public qui est cool, mais il n'est pas suffisant ni en termes de quantité.
Pourquoi c'est pas suffisant?
Ben, écoute, c'est quand même de la donnée surtout, beaucoup littéraire, d'accord. Donc c'est beaucoup de littérature. C'est pas mal de science aussi, mais c'est de la science qui n'est pas forcément à jour.
Ouais.
C'est aussi une donnée qui est très complexe à manier parce qu'on a parlé de l'OCR. Il faut savoir que, par exemple, Gallica, encore aujourd'hui, n'existe pas. Enfin, la qualité de l'océrisation, elle est terrifiante. Il y a des bouts entiers de livres donc numérisés qui sont. Bah, c'est des signaux,
Alors que c'est du livre imprimé.
Inexploitable.
Mais c'est du livre imprimé.
C'était livres imprimés qui ont été numérisés.
Mais mal numérisés.
Et numérisés, des images sont OK. Donc, on peut reprendre ces images s'ils ont été gardés. Parce que n'oublions pas que tous ces projets n'ont jamais assez d'argent pour aussi le stockage de données. Enfin, bon, bref, c'est un autre sujet. Donc, concrètement, c'est une donnée difficile à manier et pas suffisante, en fait, si l'on veut développer des modèles de langage qui ne sont pas seulement dans la prédiction du prochain token, mais qui sont davantage dans la compréhension, enfin, qui réussissent à développer ce qu'on peut appeler des reasoning primitives, donc des primitives de raisonnement, et qui vont ensuite être bons en fait, à des tâches, d'accord, donc à des tâches liées au raisonnement, liées au travail avec le texte, qui, enfin voilà, qui c'est pas seulement du, c'est pas seulement du bon style.
Mais ça veut dire que si j'entraîne que avec des données littéraires de la moitié du 19e siècle, mon LLM, il va me répondre comme Flaubert, il va avoir le même style.
Écoute, on a un projet en cours sur le sujet, donc on saura
bientôt.
Ça fait rêver beaucoup de gens, en fait. Ça sera quoi un LLM entraîné uniquement
sur Zola. Je prends toute l'œuvre de Zola.
Ça s'appellera Flaubert. C'est à l'ancien des Transformers. Est-ce qu'une IA pourra finir la légende de Perceval?
Ouais, bonne question.
En fait, il y a plusieurs questions.
C'est pas juste une question de style, c'est aussi une question de raisonnement. C'est une question d'amener d'autres types de contenu, ou c'est juste une question de durée, de temps.
C'est amener d'autres types de contenu. C'est amener d'autres types en fait de raisonnement, comme tu le dis si bien. Et c'est aussi la question de la diversité. La diversité, elle est très importante dans ces corpus, certes. Ça, c'est vrai, mais quand même, elle n'est pas...
Donc, tu fais comment? Donc, si le domaine public ne suffit pas, qu'est-ce que tu rajoutes?
Open data. Et donc là, pour le coup, la France a vraiment, n'a pas à rougir, puisqu'on a de très bonnes initiatives en open data.
Data.gouv.fr, c'est de la data qui est utile.
Malheureusement, c'est plutôt l'EDILA avec le repository venu directement des années 90. Donc, et c'est ça, en fait, le truc. C'est que si on ne connaît pas ce type de site, vraiment caché, pas mal indexé, avec de gros PDF qui ne sont pas dans le crawl, si on ne sait pas, on n'a pas cette donnée.
Et donc, comment tu fais pour connaître ces sites? C'est des habitudes? C'est du réseau d'archivistes?
C'est l'expertise et la communauté. En fait, avec mon cofondateur Pierre Carle, on vient vraiment de ce monde, en fait, le monde d'open data, ces sujets-là, et lui particulièrement, il les a énormément travaillés. Donc, du coup, on partait déjà avec un gros bagage. Mais ce gros bagage, en fait, il était quand même assez franco-allemand, je dirais, franco-allemand-italien. Et moi, de mon côté, avec une petite expertise sur l'Europe de l'Est, les Pays-Baltes. Donc, ça, on connaissait. Mais ensuite, c'est la communauté. Donc, en fait, lorsqu'on préparait Common Corpus, donc c'était, notre plus gros dataset et qui a un peu, quand même marqué la communauté open source, qui est encore aujourd'hui le plus gros dataset, donc avec des contenus avec licence permissive uniquement, 2000 milliards de tokens. Donc, troisième dataset le plus téléchargé sur Hugging Face. Mais donc, du coup, concrètement, là, on a travaillé avec la communauté. Un Discord, il y a plein de gens qui venaient et qui nous pointaient vers les datasets.
Tu parles de Common Corpus, 2 Tera Token. Aujourd'hui, pour faire un LLM de bonne qualité, tu as besoin de combien?
Non, mais attends, parce qu'avant ça, 2 Tera Token, c'était les ordres de grandeur de chiffres qu'on entendait pour des modèles, je crois, même GPT-3 ou GPT-4, c'était de l'ordre de 1 Tera.
Aujourd'hui, il faut quoi?
Donc là, on est quand même.
Aujourd'hui, il faut quoi? 10 Tera? 20 Tera?
Il n'y a pas de réponse à cette question, en fait. Là, on rentre dans le débat. Pourquoi? Parce que Bah, je peux te donner un exemple, en fait, de ce petit truc-là. Donc, c'est ça, c'est ça le fameux baguette au tronc.
Voilà.
Ça, c'est le fameux baguette au tronc. Donc, voilà. c'est un zip disque, effectivement. Donc, avec un modèle de 320 millions de paramètres. Donc, qui est entièrement fonctionnel. Donc, si vous avez un disque reader.
Et ça existe encore, ce truc-là? C'est pas cassé? Des disques reader zip?
On a passé beaucoup de temps à repêcher, ces zip disques sur eBay. Exactement.
eBay le bon coin.
Exactement. C'était ça. C'était assez compliqué. Non, mais bon, ça, c'est évidemment ça. Bon, c'est du marketing, mais en fait, ça cache une. Enfin, ça montre une réalité.
Donc là, t'as combien? C'est quoi la taille, là?
Donc c'est 900 mégas, en fait, okay. le zip disk. Et donc, le modèle, c'est 320 millions de paramètres. Ce qui est intéressant.
En quelle data type vous l'avez?
En 16, en 32.
En BF16, en SP8.
Alors, ça, c'est 8.
Donc, 8 bits, ok.
Voilà, okay. Donc, c'est 8 bits. Et donc, du coup, avec la masse EPP, ça fonctionne sur n'importe quel ordi. Enfin, vraiment très, très nul. Hein. Donc, 8 gigas RAM, ça fonctionne.
Oui, bien sûr.
Très nul, c'est 8 gigas RAM.
Tu vois la recherche dans l'IA.
Aïe, aïe, aïe.
8 gigas RAM, ordi très.
Alors, moi, je suis en train d'essayer de trouver des Pentium 3 avec.
Non, mais en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'en plus, Mehdi, il nous avait vendu. Il nous avait vendu une floppy.
Une floppy.
Donc, quand on a vu, on était là. Ah non, c'est un zip, mais c'est trop cool. Quand même, en fait. Moi, quand j'étais ado, c'était
321 mégas.
Le zip, c'était le truc.
Ouais, millions de paramètres.
Tu vois. Ouais, mais du coup, FP8, ouais. Non, FP8. Ça marche. PH, baguette au tronc, vous le téléchargez immédiatement.
Il est sur Hugging Face, d'ailleurs.
Donc là, on a vu comment aujourd'hui l'enjeu de l'open data, l'enjeu des données ouvertes, elles sont ouvertes, mais parfois pas très longtemps, ou pas comme il faut. Il y a des enjeux de copyright, on ne sait pas trop. Vous attaquez à la source, vous dites si la source est bonne, la sortie, ce sera bonne, plutôt que. Aujourd'hui, les ChatGPT ou les OpenAI ou autres qui crawlent tout et qui filtrent a posteriori. Et vous aviez fait un article, je me rappelle, avec Pierre-Carles, une publication LinkedIn où vous parliez de la génération d'images. Mm. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, toute la génération de Ghibli, toute la génération de Tintin, de choses comme ça. Et en fait, ça marchait tellement bien parce qu'en fait, on prend tout, on respecte rien. Et en gros, on fait juste attention à qui va nous attaquer en justice. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais si vous essayez de faire Disney... C'est compliqué, Disney. OpenAI, ils ont un partenariat avec Disney maintenant. Mais à l'époque, ils ont peur des avocats de Disney. Par contre, Tintin, RG, ils s'en foutent.
Nintendo.
Ghibli, ils s'en foutent.
J'avais ghibliifié une photo avec un t-shirt Mario.
Ah, mais Nintendo,
et en fait, en plus, vu que c'était un modèle, le modèle OpenAI, c'était un modèle autorégressif, en fait, on voyait ça. Et dès que ça arrivait à Mario. Désolé,
nous ne pouvons pas. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Et moi, j'avais une question un petit peu. C'est. Comment ils se font attraper? Comment on retrouve une donnée d'entraînement qui n'était pas forcément, qui n'était pas juridiquement valide? Tu vois, donc il y avait le cas du New York Times, on trouvait les articles. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où les gens se sont fait avoir?
Écoute, il y a quand même aussi l'exemple donc des cases contre Meta, donc où Mistral est cité, enfin les fondateurs de Mistral sont cités. Donc il y a aussi les cases d'Anthropic qui ont accepté de payer 2 milliards de dollars en fait à des détenteurs de droits.
Figure-toi que t'en as un ici.
Parce que moi je fais partie d'un class action contre Anthropic. Avec Aurélie, qui est l'éditeur des livres tech, là, et il propose 3 000 $ par livre.
C'est ça.
Voilà. Mais
donc,
quand tu connais les vrais droits.
D'Ala French, où il a ouvert la lettre.
Ouais, j'ai ouvert la lettre propose, où j'ai dit regardez ici, la preuve irréfutable que je me suis fait voler par Anthropic. Et voilà. Et donc, mais 3 000 $ par livre, si tu veux, c'est rien, c'est pas le vrai prix. En fait, ils vont hacker le truc, tu vois.
Évidemment, évidemment. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut démontrer tout cela? En fait, c'est du prompting adversarial. Donc, on essaye, ce que tu faisais avec Mario, les personnages de Nintendo, tu peux le faire de manière massive et de manière surtout maintenant avec des modèles de raisonnement. Enfin, on peut rentrer dans le chain of thought. Enfin, voilà, il y a des façons de faire. Il y a plusieurs.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu forces le modèle à ressortir l'entrée.
On dit régurgiter, je crois.
Régurgiter en fonction de comment tu lui poses la question, en disant.
Exactement.
Je veux que tu sois plus proche de la source. Je veux que tu sois plus dans ce style-là.
Évidemment. Et en fait, effectivement, les plus gros providers, en fait, surtout, qui ont des produits consumeurs, hein, type OpenAI, Anthropic ou Google, ils ont beaucoup travaillé pour contrer cette tactique. Parce que au début, c'était assez simple. C'était presque demander de la complétion, en fait, du prompt, qui commençait par le bout du texte. Puis, donc, on pouvait demander aussi de te faire sortir les descriptions des personnages ou autres. Et surtout, les personnages peut-être un peu obscurs, hein, donc, qui vraiment, dont on parle pas beaucoup.
Parce qu'on a des gens qui produisent du contenu, des vidéos, du texte ou ainsi de suite. Comment aujourd'hui, pour s'amuser, ils peuvent voir si une IA, elle a reproduit leur contenu? Tu disais, ils peuvent quoi, par exemple, taper un bout de leur poème ou un bout de leur texte.
Toi, tu disais que c'était fini, ça ne marchait plus, ça.
Bah, après, c'est fini quand même avec les modèles disponibles via les API commerciales. Enfin, les modèles frontières propriétaires, c'est presque sûrement fini. Bon, peut-être sur des cas, peut-être en des langues.
Il faut les jailbreaker, quoi.
Langues plus mineures, en des langues type, je ne sais pas, par exemple, estonien, lituanien, on peut tenter des choses. Je pense que là, on peut encore jailbreaker avec ce genre de choses relativement facilement.
On mettra dans les commentaires la liste, mais il y avait des jailbreaks hyper cool. Juste quelques-uns comme ça. Ils mettaient les recettes du New York Times Cookbook fait par des chefs uniques. Ils mettaient la recette, puis ils te donnaient la recette. Évidemment que c'était copié, tu vois.
Mais tu as quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Pliny the Liberator, qui est un gars anonyme qui s'amuse à jailbreaker. Et so far, jusqu'à présent, il a réussi à jailbreaker, même je crois les derniers, la dernière fois il y a Anthropique qui l'a mis au défi. Et en fait c'est marrant parce qu'en plus il est troll, tu vois, il répond avec, tu vois, le truc en mode, ils sont là, ouais, cette fois-ci Pliny t'arriveras pas. Puis il répond avec le jailbreaker.
Puis il y en a un que j'ai bien aimé, c'est la fonction reverse square root dans Quake 3.
Oui,
qui est la fameuse, où même les commentaires et les insultes dans les commentaires étaient générés par Claude. Donc il y a vraiment plein, où, comme tu disais, dans ceux qui s'amusent avec Midjourney, si tu mets le timestamp ou si tu mets même la description de l'image d'un film,
parce qu'il y en a qui prenaient une image, ils la passaient dans un VLM, donc Visual Language Model, ils demandaient une description. Un truc, et il réinjectait ça,
et tu retrouvais le truc exact, le Batman ou le Joker.
Et les exemples sur Star Wars, c'est pas exactement pareil, mais c'est la même chose. C'est la même photo.
Donc voilà, donc il y a des petites histoires, mais donc si ça marche plus, sauf dans les petits. Est-ce qu'il y a des manières de retrouver, ou faut juste les attaquer en justice au hasard en disant non, vous avez sûrement mon contenu.
Écoute, mais je crois que c'est quand même maintenant un peu le truc, parce que il y a énormément de fuites sur les téléchargements d'Anna's Archive, tout cela, donc. C'est parce qu'en fait il y a une question évidemment de reproduction, donc en fait il y a une question de vol à l'inférence, et il y a une question de vol à l'entraînement lorsqu'en fait le modèle obtient ses capacités. Et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait qu'est-ce qu'ils commercialisent en fait, OpenAI ou Anthropic? Les capacités de leur modèle, d'accord. Donc c'est pas le texte en tant que tel qui est généré, mais c'est la capacité à raisonner. D'accord, et qui est obtenu à partir de cet agrégat en fait, et où se retrouve ton bouquin,
la captation indirecte de valeur en fait. Quoi.
Exactement.
Merci, mais maintenant c'est fini.
C'est ça en fait. Donc du coup, c'est pas évidemment c'est marrant de reproduire à l'identique, mais la question c'est pas uniquement à l'inférence, mais à l'entraînement et comment en fait la valeur ensuite elle est captée et distribuée. Et je pense que c'est un peu là où on doit aller. D'autant plus que comme je disais. Les frontières là, bien entendu, travaillent avec le synthétique aujourd'hui, et les attaques tout simples de type « Ah, bon, je peux reproduire mon contenu, du coup, paye-moi », ça va plus fonctionner, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on rentre dans des modèles qui sont vraiment sophistiqués, c'est pas de la prédiction du prochain mot, c'est la prédiction du prochain monde. Le monde voulant dire plusieurs choses, en réalité. Donc, aujourd'hui, il faudra plutôt penser la distribution de la valeur économique, sa captation, et c'est pour ça que je pense que, pour nous, c'est une question de la décentralisation de l'IA qui nous anime quand même vraiment beaucoup, donc qu'on essaye de peu faire avancer.
Et j'avais vu un truc sur Wikipédia, ils se font tellement attaquer, ils disaient Wikipédia, l'information est gratuite, mais pas notre infra. Donc vous devez discuter avec nous parce que, ça coûte, notre infra coûte.
Il y a une chose importante à dire, c'est que le fait de tout prendre sur le web, c'est plus du tout ce que font maintenant les Frontier Labs, en fait. Cette époque-là, il est assez révolu aussi.
Parce de mon point de vue profane, il y a une grande époque où on voyait les nombres de tokens, tu sais, qui étaient de l'ordre de 2, entre 2 et 4 tératokens. Et j'ai l'impression que d'un coup, il y a eu un bump à 6, 8, 10, maintenant on voit 15 tératokens.
36.
Donc ça veut dire qu'il y a eu un écartement de la donnée.
Mais donc si tu ne la prends pas sur le web, tu la prends où?
Les Chinois le disent. Les labs chinois le disent de manière, pour le coup, assez ouverte. Tu prends de la donnée sur Anna's Archive, d'accord. Télécharges.
Anna's Archive, qui est une shadow library, disons ça comme ça, une grosse shadow library de plein de contenus.
C'est la suite de LibGen. Mentalement.
C'est exactement ça. Et en fait, Anna's Archive propose des dumps immense en fait, de livres donc, qui sont entièrement sous droit. Et c'est des livres parfois même, franchement, qu'il est difficile d'acheter sur Amazon même. Enfin, donc, quand on parle, voilà. Donc, il propose des dents entières qui coûtent, je crois, enfin, à mon dernier souvenir, enfin, les dernières news, c'était que c'était autour de 300 000 de dollars. Enfin, un truc
comme ça. C'est-à-dire que les gens payent à NASArchive
ouais,
des
mais
contenus
Nvidia
piratés.
Était. Enfin, on sait que Nvidia l'a fait, donc ça a été ressorti.
On est clairement dans le risk management.
On est dans le ask for forgiveness, not for permission. Enfin, on est vraiment dans.
Mais
le...
là, ouais, mais, là, ouais, mais de je, là, rappelle, je te rappelle quand même 300 000 balles.
Ouais, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire.
Là, c'est du subvention. C'est de la subvention. Je veux dire, je te rappelle que Aaron Swartz, il s'est suicidé pour avoir téléchargé beaucoup moins.
Juste parce qu'on avait fait un short là-dessus et donc Aaron Swartz, juste pour rappeler, mais c'était cet entrepreneur qui a fait cofondé Reddit et qui s'était battu pour la science ouverte et qui avait téléchargé quelques articles, enfin une partie, mais quelques articles
de recherche,
qui étaient financés par la recherche publique en général et qui voulait casser le monopole des publishers. Il s'est fait attraper en vidéo en train de télécharger vraiment manuellement le truc et il a eu un procès pour $1 million. Il a eu tellement honte qu'il s'est suicidé quelques mois avant le procès. Alors que là, on est en train de tout voler, tout piller. Même les livres des meilleurs. On est en train de tout piller. Et justement, la initiative comme la tienne, c'est de dire, non, venez, on fait bien dès le début. Quoi.
On fait bien dès le début. Il y a quand même un autre sujet aussi. Parce que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand on voit ces 36 000 milliards de tokens ou tous ces trucs-là, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas que du contenu crawlé sur le web, et il n'y a pas que du contenu volé, mais il y a surtout de la donnée synthétique. Pourquoi, en fait? Parce que...
C'est quoi la donnée synthétique?
La donnée synthétique, c'est de la donnée produite par d'autres IA, en fait, selon des procédures, enfin, des process plus ou moins sophistiqués et complexes. Donc, ce n'est pas simplement, enfin, comme on aime bien présenter la donnée synthétique, on envoie un prompt à l'IA, donc à un modèle, et il génère quelque chose. Et on entraîne là-dessus. Bah, si on fait ça, ces modèles collapsent, ça c'est assuré, donc ça a été déjà démontré.
Alors justement, parce que le modèle collapse, désolé parce que tu es une chercheuse à avancer sur ces sujets, mais donc tu disais, donnée synthétique, c'est de la donnée qui est générée par des IA, parce qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on manque de données. On n'a plus assez de données de qualité. Pour entraîner des modèles, on a tout consommé, donc on doit générer de la donnée pour continuer à entraîner les modèles. C'est un peu ça l'idée de la donnée synthétique.
Exactement. Mais c'est pas qu'on en a plus assez, en fait. C'est qu'on en a jamais eu. Enfin, parce qu'il faut penser à la chose suivante. Quand vous utilisez Cloud Cowork ou Cloud Code, il est quand même capable de faire des choses pour lesquelles, les instructions n'existent ni sur le web, ni dans les livres, etc. Donc, en fait, il faut modéliser les tâches, donc que le modèle va être amené à réaliser. Et pour le modéliser, on peut partir effectivement de la donnée réelle, les bouts de code, donc en Rust. Bon, ça va être des bouts de code récupérés depuis GitHub, etc. Mais après. Cloud Code commence à être crédible même sur, par exemple, du software qui n'est pas en open source, d'accord? Et qui n'a pas été forcément publié, en fait, et auquel on n'a pas accès. Donc, comment? On essaie de modéliser ce type de choses à travers, donc, de la donnée synthétique pour utiliser dans certaines phases d'entraînement.
Moi, j'ai juste une petite question parce que, voilà, pour le profane, il y a quand même un côté, si on rebranche, tu vois, le pot d'échappement à l'entrée d'air, on voit bien que, tu vois, donc on parle évidemment on parle du modèle collapse, mais comment en fait on se sort, si tu veux, de cette impression, en tout cas dans la réalité, de finalement ce problème, si tu veux, de premier ordre, de premier principe, si tu veux, de dire bah oui, mais si on réinjecte la sortie d'un truc qui est lui-même machin. Est-ce qu'il y a un truc qu'on ignore quand on a cette approche ou
Je peux expliquer l'idée du modèle collapse et en répondant en même temps.
Donc effectivement, l'idée du modèle collapse, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on commence à entraîner en fait les modèles, réentraîner les modèles sur les sorties donc produits par d'autres modèles d'IA, en fait, on va diminuer la diversité donc en input de l'entraînement et en fait on va perdre en densité de l'information et donc ce qui va amener à la perte donc même des capacités de généralisation et à des capacités de raisonnement donc que le modèle aurait pu apprendre à partir des textes même très non structurés mais très divers donc qui seraient issus du web ou donc d'autres sources, d'accord. Donc ça, c'est effectivement, il y a eu des articles qui ont démontré cela, donc que effectivement, donc si on entraîne sur des sorties de modèles, cela en fait empire donc la qualité des outputs des modèles ainsi réentraînés, mais ne les améliore pas.
Il y a vraiment cette démo que on mettra en vidéo, mais il y a vraiment cette démo de où on a dans ce papier de recherche de 2024 où t'as une trentaine de portraits de gens. Des hommes, des femmes, des gens de différents endroits du monde. Et ils régénèrent, ils demandent de la régénérer et la régénérer
fois,
et la régénérer.
Et
à la fin, ouais. T'as plus que des. Là, dans le cas des vidéos, mais t'as plus que des hommes et des femmes blanches et qui se ressemblent énormément. Parce qu'en fait, si tu veux, les IA, c'est quoi? C'est des fonctions de moyennisation. En fait, ils détruisent du signal, ils détruisent du signal au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, quand tu fais cette itération, tu régénères.
C'est le JPEG qu'on recompressait. Bah
c'est ça. Voilà, et à la fin, ça se dégrade. Donc cette vidéo, elle est assez impressionnante. Et ça, on voit qu'en fait, tout se moyennise entre guillemets sur ce qui est le plus commun, quoi. Et donc on perd cette.
Alors du coup,
la densité de l'information, effectivement. Bah, ouais. En fait, justement, derrière ça, quand on lit le papier, notamment, enfin sur le mode collapse, qui est plus davantage sur des LLM texte, enfin. Quand on regarde cela, on comprend que là, on a de la génération synthétique très naïve, d'accord. Donc, on prompte, et même parfois les prompts sont générés par d'autres modèles, d'accord. Donc, on est dans cette
On fait des prompts, qu'on génère le prompt par IA pour demander à une autre IA pour faire de la donnée synthétique pour entraîner une autre IA.
Voilà. Donc.
Bien sûr.
Pas de problème. Alors, okay.
Donc, concrètement, en fait, les façons non naïves de faire cela, il y en a plusieurs, et en fait, leur portée est déjà démontrée en termes d'efficacité sur l'entraînement. En fait, c'est de voir des données seed, des données originaux, en fait, donc, et qui, pour le coup, doivent venir des documents donc assez variés, en fait. Et ensuite, on va modéliser donc la génération. Par exemple, ça peut être la modélisation du fameux RAG, Retrieval Augmented Generation. Lorsque les chunks de texte, donc les bouts de texte des différents seeds, sont pris tantôt comme contexte, tantôt comme contexte adversarial, on génère la query par rapport à plusieurs, donc on génère même la question, donc la demande de l'utilisateur fictif, qui aussi, lui, en fait, peut être contrôlé comme un persona. Donc il y a des travaux extrêmement intéressants là-dessus. Et en fait, on va arriver à un pipeline finalement très contrôlé, d'accord. Donc, et où on va injecter la diversité, on va demander de la diversité à travers le contrôle de certains features, donc pour modéliser tantôt des tâches, tantôt le raisonnement. Et cela fonctionne très très bien, surtout pour les tâches, pour les domaines vérifiables. Donc c'est pour ça que le code, les maths.
Donc, t'arrives à l'ancrer dans le, à le réancrer dans le.
Ouais,
dans le réel
quoi.
Parce que, voilà.
Bah, en fait, si tu génères du code et que ça compile, que ça fonctionne, tu sais que quelque part ça fonctionne, même si c'est écrit un peu n'importe comment.
Et pour les maths, bah effectivement, avec Lean, donc avec les proveurs, enfin, on réussit quand même à avoir effectivement des datasets qui sont assez larges et qui permettent aux modèles tout petits et avec relativement peu de données, donc d'avoir des performances qui sont non seulement comparables, mais excèdent parfois en fait ceux de très grands modèles entraînés sur des volumes beaucoup plus larges de données.
Ça veut dire quoi, très petit?
Très petit, en fait, on peut parler de 7 milliards, 8 milliards. Par exemple, le DeepSeek Prover, c'était 7 milliards de paramètres. Okay. Donc,
À partir de quelle taille on dit SLM? Tu vois, c'est une question qui arrive souvent.
Un milliard.
Quelle est la taille d'un microservice?
Ouais, bah,
vous avez 4 heures. Quelle est la taille d'un SLM?
Mais c'est pour ça, qu'est-ce que tu dis petit, quoi? Ça veut dire quoi?
Selon toi.
Selon nous, selon Pléias, en 2024, au début 2024, SLM, c'était 8 milliards de paramètres. Donc, c'est d'ailleurs ce type de modèle qu'on a commencé.
8 milliards.
Donc 8 milliards, ça veut dire que...
C'était SLM à l'époque. Donc, et on commençait déjà à mettre en production ce type de modèle, donc, et qui fonctionnait mieux que même GPT-4, voilà, sur des use cases pour lesquels on spécialisait.
Nous, l'écrasante majorité des déploiements de modèles qu'on voyait en prod, c'était des modèles de 8 milliards de paramètres.
Ben bien sûr, parce que ça fonctionne.
C'est facile à manipuler, quoi.
Et surtout, ça arrive en 8 gigas de RAM, tu l'as, quoi. Même en FP16, 16 gigas,
Un PC de préhistoire, de petits trafiquants de 8 gigas, tu peux y arriver, quoi.
Donc, on était vers... En 2024, SLM, c'est 8 milliards. Aujourd'hui, c'est quoi?
Donc, aujourd'hui, en fait, les SLM, c'est quand même plutôt en dessous d'un milliard de paramètres. Donc okay. C'est ça qu'on
va voir comme
vachement amélioré.
Ça, ça donne une barrière. En dessous du milliard, c'est SLM. Ouais.
Moi, j'ai vu des tiny. Il y en a, il y a des papiers de recherche, des tiny modèles de 70 millions de paramètres.
Et c'est des modèles qui sont, à ce moment-là, qui sont généralistes ou ils sont spécialisés dans une tâche
Alors, donc, justement, en fait, spécialisés pour une tâche. Bon, on l'a vu déjà avec même des encodeurs type BERT, on peut faire des trucs, voilà, c'est assez impressionnant. Justement, est-ce que ça serait possible d'avoir un modèle quand même qui est capable d'adresser une quantité de tâches assez importante et qui est capable aussi de faire, de fonctionner à partir aussi de son contexte, donc enfin qui va faire aussi de ligne contexte. Ça, c'est quand même assez important. Et qui va avoir des capacités de raisonnement qui peuvent être appliquées à des différentes tâches. L'idée, c'est de ne pas avoir sur une disquette un ChatGPT, mais avoir un modèle de raisonnement qui pourrait, par exemple, travailler avec la donnée en la restructurant, en l'analysant, donc en donnant, par exemple, comme en exécutant un nombre de tâches et de fonctions, par exemple pour le RAG, d'accord, qui est quand même assez important. Hein, enfin, et c'est ça les cas d'usage.
L'écrasante majorité, c'est la summarisation.
Exactement. Exactement. Et puis après, enfin, nous, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur les modèles de même taille pour le function calling. Pour le function calling, bon bah, évidemment, on va jamais tout couvrir parce que c'est même pas possible. Enfin voilà. Donc, mais il y a des bundles, donc des groupes de tâches, donc que l'on peut de manière très réaliste déjà avec très bonne performance avoir sur un tout petit modèle comme cela.
Et quand on cherche à faire des petits modèles, le sujet, c'est quoi? C'est je veux consommer moins de RAM et faire tourner ça sur des orties moins puissantes, sur un téléphone. C'est la taille de téléchargement, en fait, c'est un vrai sujet, ça commence à être un vrai sujet. C'est ça coûte moins cher en inférence parce que finalement, générer un token finalement est plus simple. C'est parce qu'on le fait à partir de moins de données et ça coûtait moins cher à entraîner. C'est quoi
l'effet d'échelle, quoi?
Ouais. Qu'est-ce qui motive les gens à faire des SLM aujourd'hui?
Alors, je peux répondre qu'est-ce qui nous motive nous, en fait, et aussi peut-être Liquid AI, qui est une autre start-up américaine quand même très financée, qui font des choses comme nous, en fait. Donc, nous, qu'est-ce qui nous motive? En fait, c'est la croyance, la conviction que l'IA serait réellement le levier de l'automatisation à échelle s'il est décentralisé et s'il peut, en fait, appartenir à des entreprises, des individus et qui peuvent se l'approprier de manière, non seulement disons conceptuelle à travers le cloud, mais de manière aussi en termes de hardware.
L'installer.
Sur la partie inférence ou entraînement?
Sur la partie inférence et dans le futur sur la partie entraînement, parce que on va évidemment vers le continual learning, et ce type de choses. Mais ça, on est encore trop...
Je me permets juste un truc, c'est parce qu'entre entraînement et inférence, parfois le terme inférence... l'inférence, moi j'aime bien que vous l'expliquiez. Oui. L'inférence, c'est la récitation, entre guillemets.
Oui, en fait, l'inférence, il vient du terme que quand on entraîne un modèle, on lui donne des exemples, et puis à la fin, quand on lui donne des nouvelles informations qui ne sont pas dans son corpus d'entraînement, on lui demande tout simplement d'inférer un résultat. D'où le terme inférence. Mais donc, c'est un peu la récitation.
Donc, c'est quand on fait un prompt et qu'il
après
répond,
la leçon.
C'est de l'inférence parce qu'il fait il récite.
Parce qu'il infère. Il infère un résultat puisque, il
je
peut
le
pas.
Garer, je le garer.
Non, mais oui, mais le terme est bien choisi, du coup. Comme l'a présenté comme ça, je trouvais ça chouette.
Mais ce que tu dis, c'est assez rigolo. Nous, ça fait plus d'un an, là, au CES, donc 2025. On a fait la démo pour VLC qui faisait donc du speech to text, pour faire des sous-titres à partir de son et de la voix, mais surtout c'était la traduction, parce qu'en fait le speech to text, il y a plein de gens qui le font, et puis YouTube le fait toujours, mais la traduction vers toutes les langues, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont pas le contenu. Et notre objectif, c'était de le faire tourner sur une machine normale, c'est-à-dire pas dépendre d'un service web qui un jour va être coupé. Et en fait, notre problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le mettre en prod pour le moment. C'est qu'en fait, il y a tellement d'utilisateurs et que le modèle de speech to text, c'est 1 giga, mais le modèle de traduction, c'est 10 gigas. Et juste la distribution, en fait, c'est un vrai problème. C'est que,
AI Edge, le problème, c'est la distribution et les runtime. Ce que tu décris, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi un but que je chasse. C'est-à-dire, moi, je le conceptualise comme étant AI as a primitive. As opposed to AI as a product. Mm-hmm. Si en fait, c'est un peu l'AI comme produit, c'est le play, au final, c'est la fin, si tu veux, du plan OpenAI, c'est-à-dire on a tous notre, jumeaux AI
notre
digital,
AI qui se voit,
voilà, ça, qui se médiate, enfin qui médiate avec les autres, etc. Et tu as l'autre qui pour moi est la plus grosse part du gâteau, c'est-à-dire l'AI comme primitive sur laquelle en fait un peu comme à l'époque les databases finalement pénètre toute l'économie parce que ça devient quelque chose sur lequel on construit des produits, des verticaux, des
exactement, mais parce que nous, en fait, évidemment, on faisait par exemple partie de la cohorte Local AI Builders de Mozilla. Donc effectivement, on avait créé par exemple un assistant de recherche qui fonctionnait sur des ordinateurs vraiment assez quand même, enfin, voilà, pas du tout top top. On a des use cases encore aujourd'hui où on fait tourner le fameux Baguettotron sur Android offline. Donc c'est compliqué. L'inférence marche en réalité assez bien, c'est assez rapide. Enfin, hein, parce que
ouais, c'est pas un problème de capa. Hein,
la génération de la réponse en mode RAG, de nouveau, parce que c'est pas que de la génération pure, mais en mode RAG, c'est 25-30 secondes avec des références, etc. On sera meilleur assez rapidement. Là, c'est avec nos forces.
Enfin, on parle quand même sur un téléphone Android.
Il y a une question de mémoire, c'est que
Est-ce que le prix de la RAM est un facteur?
Mais c'est un immense facteur parce que quand on parle de, parce qu'il y a une question effectivement de processing power, enfin du pouvoir de processeur. Ça, c'est pas forcément un sujet. Le sujet, c'est de la disponibilité de la RAM. Et c'est pour ça que même si t'as un Mac en temps soit peu potable, en fait, tu peux.
60 gigas de RAM.
Non, mais attends, le problème, c'est que, OK, le problème, ça va pas être que, ça va pas être le problème de CPU. Le problème, ça va être de la disponibilité de la RAM et on voit ce qui se passe.
Parce qu'il y a un sujet, quand même, qu'on a tendance aussi à oublier, ou en tout cas qu'on ignore des fois, c'est que pour chaque token qui est généré, on doit lire tout le modèle. Donc, si le modèle, il fait 50 gigas, et ben, pour chaque token et qu'on doit le faire à 20 tokens secondes, on parlait la dernière fois, vous savez, de la zone un peu d'or des chatbots, et ben, on doit lire 20 fois par seconde 50 gigas. Et donc, ce qui devient, bon, au-delà évidemment de la taille, parce que c'est bien beau d'avoir les derniers Mac, avec 512 gigas de RAM, machin, on peut mettre des modèles de 512, milliards de paramètres en FP8 et tout. Bah, chaque token, il faut le lire. Donc, si c'est pas, et ce qui est intéressant d'ailleurs sur le edge, enfin qu'on me dit le edge, c'est-à-dire les téléphones, les Mac, etc. C'est pas tant clairement la capacité de calcul stricto sensu qui a été quand même le sujet il y a deux ans, de teraflop, etc., teraops, machin. Après voilà, modulo de marketing. C'est clairement évidemment la taille mémoire, mais surtout la distribution. Et puis dans le 4JB, parce qu'on en parlait régulièrement, c'était oui mais la version de CUDA, elle est pas la même, machin. Et du coup c'est le bordel. Mais vraiment, comme tu dis, ouais, on a, c'est quand même un gros sujet.
Toi, Anastasia, toi, l'idée des modèles que tu peux installer chez toi, souverain, que tu peux contrôler dans ton entreprise, que tu peux être capable de déployer chez toi, c'est sur ton device aussi? Parce que l'idée des petits modèles, c'est quoi? C'est sur les téléphones? Sur un Raspberry Pi, là, on a vu la folie Moldbot, OpenClaw, là, les personal assistants. Toi, c'est vraiment ça l'idée. C'est l'idée que vous soyez tous owners de nos IA, quoi. Et la taille, ça joue.
Tout à fait. Honneur de nos IA. Et il y a aussi une question de vraiment scaling de tout cela dans l'économie réelle. Parce que, enfin, nous, on est quand même avant tout B2B, hein. Parce que je pense qu'on n'est pas, on n'ose pas assez le B2C, mais voilà. Donc, on est vraiment B2B. Donc, quand on parle avec des entreprises françaises ou européennes, ils ont l'infrastructure qu'ils ont. Enfin, et je veux dire, cette infrastructure-là, elle ne va pas changer magiquement du jour au lendemain, elle ne va pas se transformer en celle d'une start-up IA native, qui d'ailleurs, même elles, enfin, n'ont pas des infras permettant réellement, en fait, de déployer de l'IA à l'échelle telle qui va vraiment, si vous voulez, power toute l'économie, toute la bureaucratie qui est derrière. En fait, aussi assez révélateur pour nous, c'était lorsque on a commencé à travailler avec l'Adinium sur leur projet Albert, donc c'était il y a longtemps, ils disposaient de 3 GPU pour le staging, pour tout. Voilà, 3 GPU. Bon, si vous avez 3 GPU et vous devez assurer un service continu, vous faites comment?
Bien sûr.
Vous pouvez pas faire autrement qu'avec des donc en fait, nous on est toujours parti un peu de ces contraintes
et
qui ne me semble pas en fait virtuel parce que OK, il y a un sujet, on aura plus de GPU, machin. Il y a un sujet d'énergie, enfin OK, on va pas parler de géopolitique, mais il y a un sujet d'énergie. Il y a un sujet de maintenance de toutes ces infrastructures et il y a aussi le sujet d'augmentation de quantité de données que l'on va devoir en fait, il y a le sujet de test to compute, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais aussi les modèles d'aujourd'hui génèrent plus de tokens, en fait, pour leur chaîne de raisonnement, etc. Donc, on a, dès que les tâches deviennent plus complexes, plus agentiques, comprennent l'utilisation des tools, etc., on va avoir plus d'inférences. On va générer plus de tokens. Et voilà, donc il y a plus de bandes passantes.
Et pour aller encore plus loin, dans ta vision, ça veut dire que, donc, OK, moi, je vais faire de l'inférence en local, j'ai déjà commencé, je vais en faire de plus en plus. Mais est-ce que ça veut dire que aussi, je vais entraîner des petits modèles dans le futur en tant que petite société, en tant que start-up est-ce que l'entraînement aussi, ça va être un sujet pour tout le monde?
Bah, écoute, moi j'y crois. Voilà, c'est un débat. Je pense qu'il y a, enfin, en tout cas, tout le monde est un peu effrayé par l'exemple de Bloomberg GPT. Vous vous souvenez, il y a juste avant la sortie de ChatGPT, Bloomberg donc a entraîné son LLM, donc son LLM de finance, qui fonctionnait plutôt bien, mais sauf que GPT 3.5 et GPT 4 l'ont surpassé très rapidement. Et là, tout le monde dit, non mais attends, on va dépenser 10 millions, 20 millions, 50 millions, je ne me souviens plus quel était le budget de Bloomberg GPT, pour ensuite se faire dépasser par OpenAI en une seconde. Du coup, je vais utiliser leur API.
Comme 90% des startups qui faisaient un wrapper d'OpenAI, et où par exemple, enfin tu vois, et qui quand le modèle nouveau arrive sort, ils font mieux, toi t'as fait un rag, ils font mieux que toi, on l'a vécu, hein, c'est pour ça. Et tu dis ah merde putain, 6 mois de boulot défoncé quoi. Mais en tout cas, Bloomberg se fait rattraper.
Ouais, mais tu vois, ok, ça c'est un exemple, mais quand tu regardes le papier, quand tu comprends ce qu'ils ont fait, tu comprends qu'ils ont juste pris de la donnée des articles. Ils ont entraîné dessus et dit oui, c'est spécialisé finance. Mais sauf que c'est pas spécialisé finance. C'est juste un modèle de langage qui a vu pas mal de données Bloomberg. Mmh. Mais il n'y a pas eu du tout le design et la réflexion, pourquoi on le fait. Bref, donc, chez Pléias, on aime bien cette phrase. The model is the product. Le modèle est le produit. Et enfin, moi, j'y crois de manière assez ferme, surtout en voyant en fait ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la donnée synthétique. Et on a plusieurs cas d'usage en télécom, en énergie nucléaire, en transport, donc avec des gros acteurs, où, en fait, on a déjà entraîné des modèles spécialisés pour eux. C'est surtout des modèles 600 millions de paramètres, donc c'est des analogues de Qwen. En termes de compute pour entraînement de ces modèles, ça nous a, enfin, ces quatre GPU pendant un jour et demi. C'est pas dingue. Et en fait, le gros du travail, c'était dans la modélisation de données synthétiques qui étaient, en fait, par exemple, je prends le cas énergie, c'est requirement engineering. Donc, en fait, il y a...
Oui,
voilà, donc, vous voyez, donc, en fait, on est... il faut imaginer. On est dans un cas de figure où, aujourd'hui, ces tâches sont remplies par des systèmes experts. Vous vous souvenez ce que c'est, hein? Donc, des règles, de logique, etc. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de modéliser cela et de générer de grandes quantités de données avec aussi de l'adversarial dedans, les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, des chemins, du raisonnement, etc. Et entraîner des modèles dessus.
Donc, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas juste la quantité de données, la qualité des données, c'est aussi la modélisation et la structure de la donnée qui fait la
Absolument.
Valeur.
Absolument.
Même surtout, j'ai l'impression.
C'est surtout. Je voulais revenir là-dessus.
Ouais, pas surtout dans le sens, pas partout, mais surtout, essentiellement.
Je te dirais que surtout, l'exemple de Baguette au tronc. Parce que là, pour le coup, c'est un modèle de raisonnement généraliste, mais sur quoi il a été entraîné? En termes de données réelles, c'est 50 000 articles de Wikipédia. 50 000 articles, c'est rien, hein. Vous conviendrez. C'est quoi ces 50
000? C'est deux soirées à cliquer.
À pire qu'à être administrateur Wikipédia. Moi, j'avoue, ça me prendrait plus de temps.
Ah ouais, carrément. Ah oui, 50 000.
Mais donc, 50 000 articles de Wikipédia que l'on a, à partir desquels, en fait, on a créé 200 milliards de tokens. Donc, c'est ça le dataset Synth.
Ah ouais.
Mais oui, mais tu vois, donc, mais en fait, donc, le Baguette au tronc, il est entraîné sur ces 200 milliards de tokens. Et ses performances dans des tâches de raisonnement général sont meilleures que, par exemple, Gemma de Google, 270 millions de paramètres, que ceux de Liquid, que ceux de Qwen, donc de taille analogue. Et en fait, alors que ces modèles-là que je viens de citer, ils ont été entraînés sur 10 000 milliards de mots.
D'accord, donc c'est parce que vous avez bien nettoyé, vous avez bien structuré, vous avez bien modélisé.
Non, je veux pas de mot nettoyer. Je lutte contre ce mot-là parce qu'en fait, on a inclus de la donnée. On a vraiment designé, curaté.
C'est de l'inclusion.
C'est de l'inclusion. En fait,
on a mis une soirée privée. Voilà, voilà. Toi, tu rentres, toi, tu rentres pas.
Il n'y a que des données VIP, tu vois.
Ouais, ouais. Mais sauf que tu peux enlever, tu peux enlever les notes, par exemple, dans les trucs de Wikipédia, t'enlèves la ponctuation.
Là, c'est une soirée où, un peu comme sur l'UMA, là, où il n'y a que ceux qui sont inscrits qu'on l'adresse. Donc, il n'y a pas besoin de vigile, tu vois. Tu vois, c'est un peu
en
ça.
En fait,
quoi.
Si tu veux, en fait, la préparation initiale de la donnée SID, elle est assez importante, surtout. Enfin, bon, Wikipédia, c'est plutôt simple parce que, on avait déjà de la donnée structurée, parce que, voilà, depuis l'API de Wikidata structurée, donc c'est bon, ok. Mais quand on travaille, par exemple, en entreprise, en fait, on a surtout des PDF. Donc, bien sûr qu'il faut faire du VLM dessus. C'est tout un travail. Enfin, là, bien sûr, t'as raison. C'est pas.
C'est nettoyage. Tu prends pas juste le PDF.
C'est préparation, tu vois. Et en fait, tu choisis ce que tu veux. Et c'est ça qui est très important. Parce que, du coup, et là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose de vraiment intéressant. C'est plus, ok, je prends tout. Et après, j'appuie sur les boutons pour filtrer. J'ai nettoyé. Ok, ça, c'est le travail, oui, intéressant. Mais là, en fait, on est enfin dans le data design et dans le fait de créer un modèle que l'on souhaite. Et en fait, mais quand on dit on crée un modèle que l'on souhaite, on peut toujours se dire ah oui, mais la Bitter-Lesson. Enfin, si on suroptimise le modèle pour X, après, de nouveau, il va être mauvais sur tout le reste. Et même là, bon. Justement, avec la possibilité de préserver la diversité que l'on a prouvé en fait avec Baguettotron, c'était ça l'idée en fait. C'était un projet de recherche qui était là pour démontrer que on peut préserver la densité de l'information avec dans le synthétique uniquement et faire du pré-entraînement uniquement sur du synthétique et avoir un modèle qui a fait du groking, qui a généralisé et qui s'est raisonné. Donc c'était ça le concept.
Parce que tu peux nous donner des chiffres un peu sur Baguettotron, c'est combien de temps de travail, c'est quoi le coût, qui finance, enfin ce que tu peux dire hein,
bien sûr.
Pour donner un ordre de grandeur que les gens comprennent.
Moi ce que je comprends de ce que tu dis, c'est parce que tu sais on a toujours la course voilà. Mm. T'as combien de GPU toi? Moi j'en ai 100 000. Moi j'en ai 200 000.
On voit les gens avec la casquette GPU poor.
Ouais, voilà.
Ils sont GPU pauvres.
Il y a un peu cette course, je vais pas t'apprendre, mais cette course aux chiffres, mais surtout au-delà de la course aux chiffres, dans la réalité, tu sais la perception que plus c'est mieux.
Oui.
Mais de ce que je comprends en fait, de ce que je dis à travers ce que tu dis, c'est qu'en fait plus c'est pas mieux, c'est mieux c'est mieux, mais plus c'est pas mieux.
Donc c'est quoi les ordres de grandeur là, un petit peu ce que tu
Alors les ordres de grandeur, bon déjà je fais quand même un petit aparté. Pleia, c'est une start-up qui est bootstrapped, d'accord. Donc c'est-à-dire que nous on n'a pas réussi à lever des fonds. On nous a dit à quoi bon entraîner des modèles. Bref, concrètement.
Attends que l'épisode sorte, on compte.
Non, okay.
On va mettre un timer.
C'est ça.
Time before levée de fonds. Tu vois.
Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est quand même assez important, c'est que ce que l'on fait, c'est possible de faire avec des ressources extrêmement contraintes.
Donc,
des ressources extrêmement contraintes, c'est quoi? Le projet qui a mené à Baguettotron, c'est 4 mois de travail de, on va dire, 5 à 6 personnes de l'équipe qui ont pu consacrer, pas du tout le temps plein, parce qu'on a des projets clients, parce qu'on doit, voilà. Mais donc, du coup, c'est ça. C'est des personnes qui sont malheureusement aujourd'hui, ils n'ont pas des salaires de chercheurs de méta, malheureusement.
Pas encore.
L'équipe, ça arrive. Peut-être.
Pas encore.
Mais ce que je veux dire, c'est des gens qui, qui sont évidemment très motivés, qui ont des parcours académiques, c'est des ingénieurs aussi, plutôt quand même d'excellence, mais qui ont une grande différence par rapport à ce que l'on voit dans d'autres labs. Ils sont pas forcément passés par la moule Meta, DeepMind, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi une approche assez différente parce que on ne part pas des mêmes primitives en fait. Enfin, on se dit on sait pas, on va tester des choses.
Okay.
On n'a pas refait.
Et c'est entraîné sur combien de GPU?
4 GPU. 4 GPU en jour et demi. Donc,
enfin, c'est quand même dingo, parce que si tu veux, ça reset compte. Bon, déjà, parce que tu sais, t'as le truc du style, tu sors un modèle je vais pas t'apprendre, mais de 300 millions, du coup, tu dis, ah oui, mais toi, t'es pas dans la course. Tu dis, oui, mais en fait, quand tu le testes, en fait, je te défonce, tu vois. Et donc,
c'est les protos contre les ergs, tu vois.
Ouais, la question, c'est, si jamais on te donne, imagine, je te donne 64 GPU pendant 3 mois, est-ce que c'est utile? Est-ce que tu peux en faire quelque chose d'aussi encore plus incroyable ou pas?
Bah, écoute, très certainement oui, parce que on a déjà, si tu veux, scalé, enfin la création de données synthétiques. Donc pour en fait avoir non pas seulement de la donnée de raisonnement généraliste mais aussi domaine spécifique, enfin voilà, donc en fait on aura de la donnée pour entraîner. Donc la question ça va être plutôt est-ce qu'il est vraiment intéressant, enfin comment est-ce qu'on va aller au-delà de la frontière en fait, dans mm-hmm. quoi en fait, parce qu'il faut bien cibler les choses.
Ce que je veux dire, si on a return, ou un truc comme ça,
ce que je veux dire c'est que si on a accès à
imagine je te donne ça, tu fais quoi?
Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un modèle de 32 milliards de paramètres, plutôt un mixture of experts surtout, en fait. Donc, il y a des questions d'architecture donc, qu'il faut, voilà.
Juste le modèle mixture of experts, tu peux expliquer ce que c'est? C'est un modèle qui a différentes spécialisations, entre guillemets, dans son entraînement, quoi. C'est une forme d'horizontalisation, quoi, pour faire simple. Et tu choisis dynamiquement,
En fait,
quelle partie du modèle tu actives?
Il y a le choix dynamique, donc, qui se fait à l'intérieur du modèle. Donc, c'est pas comme si on envoie un prompt et il y a l'expert qui est choisi en fonction de c'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ces sujets. On ne choisit pas l'expert, donc il y a pas de
c'est pas huit modèles, c'est un modèle quoi.
C'est un modèle.
Et il y a du coup mais effectivement on peut aussi avoir des experts actifs ou pas actifs. Bon bref,
c'est par couche, enfin
En fait, ce qui est assez important, c'est que aujourd'hui dans nos tests d'ablation, donc on voit que ce type d'architecture, mixture of experts, serait vraiment bon en fait pour des tâches de raisonnement sur des domaines semi-vérifiables. Enfin, on a parlé de domaines vérifiables, type code math. En fait, le vrai enjeu, il est dans les domaines semi-vérifiables. C'est quoi? La jurisprudence. C'est l'économie, la finance, tout ça en fait. Et en réalité, les comportements agentiques en entreprise que l'on souhaite, c'est entièrement du domaine semi-vérifiable. Donc, et on a aujourd'hui des preuves, donc à partir de ce projet de recherche et ce que l'on fait en ce moment, c'est que pour les domaines semi-vérifiables, on peut effectivement généraliser notre pipeline de données synthétiques. D'accord. On peut la scaler et du coup, c'est vrai qu'on peut réussir à avoir donc des modèles qui sont frontières, donc peut-être pas sur tous les sujets. Mais donc dans des
enfin selon un sujet des, choisi déjà
selon plusieurs sujets choisis, mais on peut réussir. En tout cas, ils vont être très compétitifs, même avec
donc ça veut dire que là, avec plus de GPU et etc., tu vas pouvoir générer plus de données synthétiques, entraîner des modèles un peu plus gros en mixture of experts. C'est ça un peu l'idée?
Exactement. Mais en fait, tu as très bien dit en premier lieu, faire plus de données.
Oui, ça j'ai bien compris.
Tu vois, ça c'est un truc très important, ça, parce qu'en fait ça change beaucoup l'économie en fait de l'entraînement.
Nos auditeurs, ils ont bien compris que l'idée c'est de bien générer de la donnée et de contrôler ton génération et pas mettre tout ce que je peux, tout le web dedans et de
trier. Non, attends, mais il y a vraiment une question économique importante. Pourquoi? Parce que en fait, pourquoi ça nous a pris aussi peu de temps d'entraîner ce modèle-là? Parce que c'était entraîné sur peu de données en réalité.
Vous êtes fort.
Mais non, parce qu'ils
n'avaient pas le choix.
Non, parce que quand on, enfin évidemment, la question de quantité de données, ça a évidemment l'incidence sur le temps d'entraînement, parce que
bien sûr.
Mais donc du coup, en fait, ça nous a coûté moins cher d'entraîner le modèle avec des performances, parce qu'on avait moins de données, d'accord. Mais il y a quand même un truc, c'est que et c'est pour ça que les coûts en fait d'OpenAI en R&D explosent aussi, parce qu'ils génèrent énormément de données. C'est pas que les runs d'entraînement lui-même, mais c'est la génération de données, la simulation. Parce qu'en fait, on fait de l'inférence. Parce que comment on génère la donnée synthétique? Qu'est-ce qu'il y a derrière les pipelines synthétiques? C'est plusieurs modèles fine-tunés. D'accord? Donc, faut déjà, créer des sets de fine-tunés. Bon, bref. Il y a des modèles fine-tunés, il y a des compilateurs, il y a des prouveurs. Donc, il y a tout ça. Et on jette aussi beaucoup de données parce qu'elle n'est pas assez bonne.
Mais il y a aussi, c'est ce qu'on disait dans un précédent épisode, c'est que la contrainte, c'est quand même vachement plus facile que la discipline. Et quand tu as une abondance de moyens, en fait, tu n'as aucune raison d'optimiser. Mais quelque part, si tu n'as aucune raison d'optimiser, tu ne connais pas le champ des possibles. Et là, d'un coup, toi, tu arrives, tu changes complètement la façon d'approcher le problème. Alors, ça peut être par contrainte, par choix, ou les deux, d'ailleurs, ou par goût, comme on disait. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que ce qu'on appelle ça, c'est qu'en face, vu que la contrainte n'est pas, on va dire, subie, eh ben, en fait, on ne sait pas, en fait, finalement, de ce qu'on peut faire. Tu vois, et dire, en fait, tu vois, l'exemple, tu disais, il y a deux ans, les SLM, c'était des 8 milliards, et donc c'était considéré des petits modèles en dessous du milliard. maintenant 5 milliards. Donc, il y a quand même eu une optimisation qui a été faite. Qui d'ailleurs, et moi, je trouve ça intéressant, c'est que c'est un peu à contre-trajet, si tu veux, de ce qu'on voit dans les modèles fermés. Tu vois, en tout cas, quand tu ouvres un peu, tu vois le rideau, tu vois que c'est des modèles qui sont de plus en plus gros, alors en MOE, enfin en Mixture of Experts, etc. Alors que finalement, l'industrie, les clients, les gens finalement opérateurs de ce modèle, en fait, on structurellement une envie, comme je dis souvent, c'est la loi d'emmerdement minimum, quoi. Tu vois, donc on a structurellement un besoin de faire baisser les emmerdements, quoi, pour faire simple, au sens large. Et du coup, là, on le voit, comme tu dis, nous, on n'avait pas machin. Donc, en fait, on l'a fait. Et du coup, tu changes complètement la façon qu'on a d'approcher le problème, quoi.
C'est ça. Mais en fait, il y a vraiment pour nous, il y a une question de contrainte. Évidemment, on n'a pas accès à des clusters immenses. Mais au-delà de ça, au-delà de la contrainte, il y a une question en fait de notre positionnement. Parce que vous voyez, donc je pense qu'il y a un petit fil rouge qui se dessine, même. Enfin, je le voyais pas moi-même, mais c'est-à-dire qu'il y a une question en fait de toujours faire le choix par rapport à sa donnée. Toujours inclure plutôt qu'exclure. Toujours être dans la conscience de ce que l'on fait, pourquoi on le fait en fait, non pas seulement le pourquoi, enfin la plus grosse performance, je ne sais pas où partout, mais effectivement aspire for greatness dès le début en fait, de planifier, planifier.
Moi ça me fait dominos,
ça fait vraiment penser aux OS obèses là maintenant que tu vois, versus les Guy Carnel où tu fais tout dès le début, depuis le bare metal jusqu'en haut pour être hyper performant, versus le truc où en fait tu vas sélectionner la libre.
En fait, c'est toujours plus dur d'aller rechercher, d'aller réoptimiser à posteriori que tu vois tout le long avoir ce côté, cette approche. J'ai même envie de dire.
Toi, peut-être la thèse de recherche sur les données la plus excitante ou intéressante ou la plus décalée que tu vois en ce moment. Et je vais juste rajouter un truc parce qu'on l'a pas dit avant, mais en fait il y a un passage aussi des LLM au LRM, au Large Reasoning Model ou au Small Reasoning Model, et c'est André Carpati lui qui avait dit à un moment, plutôt que d'avoir 400 milliards de paramètres, venez, on prend que les 1 milliard de paramètres de raisonnement et on essaie de faire tourner ça, et c'est ça le Small Reasoning Model, quoi. Donc toi, la thèse aujourd'hui de recherche qui t'excite le plus aujourd'hui, ce serait quoi?
Écoute, je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant pour moi, c'est même pas la thèse de recherche, c'est plutôt déjà la thèse de la possibilité d'engineering, en fait, de domaines semi-vérifiables, donc à travers la donnée synthétique. Et tout ce qu'on peut inclure dedans parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on génère des grosses chaînes de raisonnement dans les domaines semi-vérifiables. Bon, il y a beaucoup de hacking, il y a des possibilités, évidemment, d'hallucinations. Enfin, même pour les humains, c'est difficile de détecter. En fait, les questions, c'est comment réussir à créer des pipelines avec l'inclusion, notamment, des modèles, par exemple, de ces fameux TRM, HRM, etc.
TRM, c'est Tiny Reasoning Models.
Tiny Reasoning Models.
Et HRM, Hierarchical Reasoning Models.
Qui ne sont pas en fait des modèles de génération, mais des modèles en fait de prédiction d'une réponse. En fait, c'est vraiment donc c'est quand même important.
Ils sont pas.
Mais donc de l'inclusion de ces différents de ces différents types de modèles contre des modèles qui permettraient en fait de faire de la vérification durant la génération de données synthétiques. Donc en fait nous venant des humanités en fait, j'aime bien les grandes thèses, mais j'aime bien aussi en fait rentrer dans le détail et construire ces petits cheminements, des syllogismes en fait finalement. Ce qu'on cherche à construire avec toute cette donnée, c'est des séries de syllogismes, de primitifs logiques, de primitifs de raisonnement que l'on peut inclure dans le modèle dès le début. Une autre thèse qui est quand même assez importante pour moi, pour Pléias en général, c'est que tout est entraînement. Tout doit être considéré comme un seul processus d'entraînement, sans cette distinction entre pré-entraînement, mid-training, post-training. Après, on fait du RL. Et il faut réellement penser à créer des modèles. Donc, il faut tenter de créer des modèles dès le début, avec un objectif, un but qui ne soit pas évidemment trop spécifique. Et c'est quelque chose que l'on est en train d'essayer de faire, par exemple pour télécom. Donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle telco en fait qui se base sur des principes en fait de standards, de normes de télécom en fait, et qui est capable de raisonner à partir de ces formats de manière efficace, non pas comme une après-pensée, un après-coup, Et donc évidemment ça, in fine, ça peut ouvrir les possibilités pour des modèles très petits, mais qui sont capables en fait de planifier. Donc, et faire du multi-turn agentique. Voilà, ça m'excite beaucoup. Et pour répondre quand même sur les cognitive core, bah nous en fait c'était ce qu'on voulait tester. C'était ça en fait. Est-ce que il peut avoir un modèle généraliste de raisonnement généraliste qui est très petit. Donc, d'ailleurs, Baguettetron, il parle aussi très bien français. Hein. Donc, il est pas mal pour le creative writing. J'étais assez impressionnée. Donc, si le cognitive core, c'est avoir des connaissances de base plutôt très bonnes, enfin, c'est en tout cas issu des meilleurs articles de Wikipédia, et savoir écrire de jolis poèmes, si c'est cognitive core, bah, je pense qu'on y est. Le futur est bright.
Le futur est bright. Moi, ce que j'ai bien aimé avec le HRM, le Hierarchical Reasoning Model, ils partent de l'idée de Daniel Kahneman. Il a fait aussi le livre qui parle des systèmes 1, système 2. Donc, on a deux systèmes de pensée. Un hyper rapide, assez réflexe, et un de pensée. Et en fait, ils reprennent ce modèle-là pour générer des étapes de réflexion très rapidement, mais les re-challenger avec un système 2 un peu plus long. Donc vraiment, on essaie de reproduire le cerveau humain et comment il réagit.
Ils font ça aussi avec la robotique, les instants de feedback. On faisait ça aussi en automotive quand je faisais des voitures autonomes. On avait le système 1, c'était branché, quoi. C'était typiquement, je ne vais pas dire l'arrêt d'urgence parce que c'est humain, mais en tout cas, il y avait des systèmes qui étaient physiquement branchés, puis des systèmes qui passaient par le programme. Et ça, c'était un peu
comme les réflexes
2,
qui passent par la moelle épinière ou la réflexion qui passe par le cerveau. Donc, c'est assez intéressant. Écoute, Anastasia, c'était bluffant. Franchement, c'était
passionnant
pour vous. Génial. On était vraiment à la pointe au bout. J'espère que ça vous a plu. Il y a sûrement 2-3 termes qui étaient un peu complexes. On mettra, vous l'aurez vu parce que ça sera dans l'épisode. C'était un peu complexe. Mais voilà, j'espère que vous avez capté une bonne partie. On était à la pointe de la recherche sur l'IA, les modèles de langage, les modèles de raisonnement, les petits modèles pour apprendre tout ça. Baguettetron, si vous voulez regarder sur Hugging Face à quoi ça ressemble. Et en tout cas, c'est passionnant, ça donne envie, quoi.
Ah ouais, moi je trouve ça. Moi je repars. Je suis hyper content, en fait. Tu vois, je pensais qu'il y avait quand même un besoin de changer un peu le paradigme, juste plus de rajouter des chevaux à la calèche, quoi. Mais je pensais pas qu'il y avait vraiment. La frontière était encore. Puis ça prouve, tu vois, que tout est encore à découvrir. C'est génial. C'était du petit lait, merci. Hein.
We are very early.
Ouais, exactement.
Ça. Non, mais ça donne quand même d'espoir, quoi.
Donc, si on veut savoir plus, Playas.com.
Ouais, .fr.
Si on veut savoir plus, Playas.fr, ça reste en France. Playas.fr, sur Hugging Face, vous avez des datasets qui sont extrêmement téléchargés. Puis, je vous ai très prolifique sur LinkedIn avec Pierre-Carl. Donc, Pierre-Carl Langlais, Anastasia Stasenko sur LinkedIn. Il y a énormément de papiers de recherche, c'est vulgarisé, c'est sympathique. Et puis, en plus, vous faites plein de trucs utiles à la communauté. Et donc, je répète, vous vous battez pour des modèles souverains dans le sens qu'on peut installer, petits, qui ne consomment pas trop d'énergie, mais surtout très bien conçus depuis le départ avec de la donnée propre depuis le début. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer Playas.
Oui, c'est bien.
Écoute, Anastasia, on était ravis.
Merci beaucoup. Bravo. Anastasia.
Voilà,
merci,
franchement, on peut même applaudir à distance. Voilà, applaudissez à distance si vous voulez. Non. C'était à la French avec Anastasia Stasenko et Playas. On était vraiment à la pointe de l'IA mondiale et on était très heureux de te recevoir, Anastasia. Et puis, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé. Si vous aussi, vous êtes dans cette recherche, si vous utilisez des SLM, si vous avez déjà testé les modèles hiérarchiques de raisonnement. Franchement, on est hyper heureux. Et puis, si vous êtes un chercheur, est-ce que vous recrutez Playas?
On va essayer
de recruter.
On va essayer.
Et puis, on met le timer, levée de fonds.
Hein, ouais, bah là.
À la sortie de l'épisode, la levée de fonds Playas, jusque quand? À la semaine prochaine.
Au revoir, merci.
À plus tard.
Merci.
Le chiffrement des DVD audio cet été, t'avais suivi?
Si, bien sûr.
Et là, j'ai fait un autre reverse, c'est RT, les DVD qui étaient dans les caméscopes enregistreurs. Tu sais, c'était un format de DVD à la con.
Le DV?
DVR, ça c'est DVD RT. RTAV, VR.
Truc. C'était crypté aussi?
Ouais.